RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, journée d'élections législatives ce mardi en Israël. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, est candidat à un cinquième mandat. Ce serait le quatrième d'affilée. Mais les résultats de cette élection sont incertains. Benjamin Netanyahou est sous le coup d'une menace de mise en examen dans 3 enquêtes pour corruption. Et face à lui, la principale coalition, l'Alliance Bleu et Blanc, est dirigée par un ancien chef d'état-major. 2 autres chefs de l'armée sont présents parmi les 4 premières places de la liste. Une coalition de généraux donc pour tenter de vaincre celui qui reste le responsable politique israélien le plus populaire. Car 71 ans après la création du pays, les Israéliens accordent toujours une importance fondamentale aux questions de sécurité au moment de voter. Israël, les menaces sécuritaires dictent toujours le choix électoral. Un grand reportage signé Guilhem Delteille.
Lundi 25 mars, aux premières heures du jour, une roquette tirée de la bande de Gaza atteint une maison au nord de Tel Aviv. Le bâtiment est détruit, ses occupants ont pu se réfugier dans une pièce sécurisée. 7 personnes ont été blessées. En fin d'après-midi, l'armée israélienne lance en représailles des frappes sur la bande de Gaza. Au cours de la nuit, les groupes armés palestiniens tirent des roquettes en direction du territoire israélien. L'une d'entre elles a endommagé une maison de la ville de Sderot, située en périphérie immédiate de l'enclave palestinienne.
La nuit dernière, j'ai entendu l'alarme et je suis allé dans la pièce sécurisée. J'y suis resté pendant 4 ou 5 minutes et j'ai entendu une explosion. J'ai ouvert la porte et j'ai vu de la fumée dans toute la maison. Je me suis dit que s'il y avait de la fumée dans le salon, c'est que le problème devait venir de chez moi. Je suis monté à l'étage, j'ai vu la roquette sur le sol et un trou dans le toit.
Shlomo Moscovitch est examinateur de permis de conduire. Il vit à Sderot depuis 55 ans.
18 years we have this problem with the rocket.
Cela fait 18 ans que nous avons ces problèmes avec les roquettes. Ça s'arrête et puis ça recommence au bout d'un mois, 3 mois, 8 mois. Tout le temps. On ne peut pas vivre comme ça. On veut le calme. On veut vivre comme toutes les personnes du monde.
Le kibboutz de Nahal Oz est la localité israélienne la plus proche de la bande de Gaza. Au cœur de cette communauté, 38 jeunes venus de tout le pays suivent une formation d'un an entre le lycée et le service militaire. Achinoam Mayer a 19 ans, elle vient de Jérusalem. Pour elle, cette nuit de tension autour de la bande de Gaza fut inhabituelle.
Jusqu'à 1h du matin à peu près, il y avait peut-être 5, 6 sirènes. Mais il y avait beaucoup de bruit et beaucoup des avions autour de nous. Il y avait des bombes et tout ça, mais on était ici, donc c'était sécurisé.
Ici, c'est dans un abri?
Ouais, c'est dans un...
Un jardin d'enfants?
Ouais. Donc voilà, donc on était ici, on a dormi ici. Parce que s'il y a une bombe, donc on est tous ici et faire bouger 37... Jeune, c'est pas évident. Et maintenant, on sort un peu parce qu'on a un peu marre. mais c'est bon, parce que maintenant, il n'y a plus rien.
Dans le ciel, les drones de surveillance israéliens se font entendre. Ils survolent quasiment en permanence la bande de Gaza.
That's my house.
Shalom Yospé habite Nahal Oz depuis 54 ans. Ce retraité vit aujourd'hui seul dans une petite maison équipée d'une pièce sécurisée.
Depuis 10 ou 12 ans, partout en Israël, quand un nouveau bâtiment est construit, il doit avoir une pièce sécurisée. Et ici, on a été les premiers à avoir des pièces sécurisées dans chaque maison.
Et vous avez passé la nuit dernière ici?
Deux nuits dans ma vie. Une, c'était...
Deux nuits dans ma vie seulement. La première fois, c'était il y a une dizaine d'années. Toutes les maisons tremblaient. La seconde fois, c'était il y a à peu près un an. En une heure, on a eu 48 roquettes. Sur Nahal Oz, uniquement. J'avais une voiture, une moto, elles ont été détruites.
Depuis un an, certains groupes dans la bande de Gaza lancent aussi des ballons au cerf-volant auxquels sont attachés des cocktails Molotov ou des engins explosifs.
Beaucoup de champs ont brûlé. On avait une célébration agricole, Shavuot, au printemps dernier. Et 20 minutes avant, les champs de blé qu'on avait récoltés sont partis en feu. On a trouvé beaucoup de cerfs-volants ici. Ce n'était pas agréable. Les gens marchaient la tête en l'air car vous ne saviez pas d'où ça pouvait venir.
Le premier ministre israélien a dénoncé une nouvelle forme de terrorisme, mais Shalom Yospé, électeur de gauche, juge que Benjamin Netanyahou ne s'est jamais intéressé aux difficultés que le kibboutz pouvait rencontrer.
Le problème, c'est que pour ce gouvernement, tous ceux qui sont de gauche sont des traîtres. On ne compte pas pour eux. Je pense que ce gouvernement qui a été au pouvoir depuis plus de 10 ans n'a rien fait pour la bande de Gaza. Ils viennent, ils bombardent et ils s'en vont. Mais ils ne se demandent pas comment on peut les aider. Que peuvent-ils faire? 2 millions de personnes dans le même territoire. Ils n'ont pas d'argent, pas de nourriture, rien.
Dix ans de gouvernement Netanyahou et toujours la même insécurité. La critique est aujourd'hui assez fréquente dans les localités riveraines de la bande de Gaza. Le mardi 26 mars, quelques heures après ce nouveau regain de violence, quelques dizaines de personnes ont manifesté sur une route en périphérie de Sderot.
Le panneau dit que toutes les mères de la périphérie de Gaza sont très reconnaissantes aux soldats ici, mais protestent contre le gouvernement qui n'a rien fait.
Batia Cholin habite dans l'un des kibboutz proches de l'enclave palestinienne. Après 10 ans de gouvernement Netanyahou, elle n'attend plus rien de l'exécutif actuel.
Je ne suis plus en colère, je veux que cette situation change. Je n'ai aucune attente à l'égard de ce gouvernement ou de ce Premier ministre. Je ne l'aime pas et je ne pense pas qu'il fera quoi que ce soit. S'il n'a rien fait en 10 ans, il ne fera rien maintenant. J'espère que le 9 avril, on choisira quelqu'un qui pourra faire quelque chose pour que nous puissions vivre ici comme des gens qui méritent de vivre bien.
Les manifestants sont peu nombreux, mais des automobilistes klaxonnent en signe de solidarité en passant à côté du rassemblement. Netanyahou, rentre chez toi, crie une manifestante. Dans cette petite foule, c'est l'ancien chef d'état-major, Benny Gantz, qui est le plus populaire. La veille, Benjamin Netanyahou était reçu à la Maison-Blanche. À 2 semaines des élections israéliennes, le président américain a signé un décret présidentiel reconnaissant la souveraineté israélienne sur le Golan. Ce territoire a été conquis à la Syrie en 1967, puis annexé à Israël en 1981. Mais aucun pays ne reconnaissait jusque-là cette souveraineté. Ce changement marquait un grand jour, assurait alors Benjamin Netanyahou.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, c'est véritablement une journée historique. Pendant 2 décennies, de 1948 à 1967, la Syrie tirait depuis le plateau du Golan sur les citoyens israéliens en dessous. Une génération d'enfants israéliens a vécu dans un danger permanent. Et puis, en 2 jours glorieux, en juin 1967, les courageux soldats d'Israël ont libéré le Golan qui s'est depuis révélé d'une valeur infinie pour notre défense.
Si historiquement le plateau du Golan s'est révélé important pour la défense d'Israël, il représente toujours un intérêt stratégique majeur, souligne Donald Trump.
Aujourd'hui, un comportement agressif de l'Iran ou de groupes terroristes dans le sud de la Syrie, y compris le Hezbollah, font du plateau du Golan toujours un potentiel terrain d'attaque contre Israël. Des attaques très violentes. Tout futur traité de paix doit prendre en compte le besoin d'Israël à se défendre contre la Syrie, l'Iran et d'autres menaces régionales.
Iran à la sortie de la commune de Majd al-Shams, à l'extrémité nord du plateau du Golan contrôlé par Israël, un imposant grillage de fer a été installé. À quelques dizaines de mètres de l'autre côté, un bâtiment est surmonté de plusieurs drapeaux syriens. Il s'agit d'un poste militaire récemment repris par l'armée fidèle au président Bachar el-Assad après 4 ans de contrôle par des groupes rebelles. Et le retour des forces syriennes dans la région est de nature à accroître les inquiétudes des Israéliens, souligne Kobi Maron. Ce colonel réserviste de l'armée israélienne a servi sur le front nord et habite dans le Golan.
L'une des principales inquiétudes israéliennes est le fait qu'avec le retour du régime d'Assad ici, on assiste à un déploiement du Hezbollah et d'autres alliés de l'Iran le long de la frontière. Et Poutine, dans ses discussions avec Netanyahou, avait promis que les Iraniens seraient à 85 km de la frontière. Maintenant, nos renseignements montrent qu'ils sont sur la frontière, ce qui est inacceptable. Imaginez si ces menaces existaient dans les frontières de 67 à 30 km d'ici. Ce pourrait être désastreux pour Israël. Heureusement que nous avons la distance stratégique du plateau du Golan.
Kobi Maron souhaite que le gouvernement israélien investisse désormais dans le renforcement de la population juive du Golan. Il aimerait qu'elle soit de 100 000 personnes d'ici 10 ans. Israël soutient déjà l'installation d'habitants juifs dans des localités voisines des villages druzes. Esther Abziz vit depuis 14 ans à Katzrin et cette sexagénaire a bénéficié d'une aide de l'État pour l'achat de sa maison. Avec 7 000 habitants, Katzrin est la principale localité juive de la région. Esther Abziz refuse l'idée de devoir en partir et elle voit dans cette reconnaissance américaine une preuve supplémentaire des capacités du premier ministre sortant, surnommé Bibi.
La seule personne qui puisse diriger le pays, c'est Bibi, c'est vrai. Si la gauche arrive au pouvoir, elle va rendre des territoires et le Golan sera donné à la Syrie. Benjamin Netanyahou est celui qui nous apporte la sécurité. La sécurité est très importante. Les bus ont cessé d'exploser, les restaurants aussi. Si la gauche arrivait au gouvernement, ça reprendrait car ils autoriseraient les Arabes à venir librement.
Israël célèbre cette année 71 ans d'existence. Construit dans l'adversité, le pays est devenu une puissance militaire régionale, mais malgré sa force, Israël se sent toujours comme un pays dont l'existence reste menacée, souligne Yael Arad, ancien conseiller politique qui a participé à la campagne de Benjamin Netanyahou en 1996, puis à celle d'Ariel Sharon, d'Ehud Olmert et de Tzipi Livni.
Pour les Israéliens, il n'y a rien d'automatique dans la survie d'Israël. Israël vit avec une anxiété existentielle. Un seul virage mal négocié et Israël peut être détruit. Et cette préoccupation sécuritaire est fondée, car nous sommes là dans une campagne électorale menée au cours d'une année où des centaines de roquettes ont été lancées contre des civils israéliens. Donc les électeurs attendent de voir des propositions sur comment mettre fin à cela.
Moshe Gaon, lui, fit partie de l'équipe de campagne d'Ehud Barak, qui avait remporté les élections législatives pour le Parti travailliste en 1999. Pour lui aussi, les références sécuritaires sont un prérequis pour devenir Premier ministre.
En Israël, afin de gagner les élections, vous devez réussir le test de sécurité. C'est une obligation. Donc si vous regardez l'histoire électorale israélienne, la droite a la tâche plus facile. Quand un candidat vient de la droite, il est considéré comme fort sur les questions de sécurité. Et quand il est de gauche, il doit être un général. C'est pour ça que depuis Yitzhak Rabin et Ehud Barak, on n'a pas vu de candidat qui venait vraiment de la gauche. Même chez les centristes de Kadima. Kadima a été formé par des candidats de droite. C'était Sharon, Olmert et Livni. Ils venaient tous du Likoud.
Dans cette campagne, le principal rival de Benjamin Netanyahou est un ancien chef d'état-major. Courtisé par de nombreux partis politiques, Benny Gantz a finalement décidé de créer sa propre formation, la Résilience pour Israël. Fin janvier, l'ex-général a tenu son premier rassemblement de campagne à Tel Aviv. La salle n'était pas très grande et le public restreint, mais beaucoup attendaient cette première prise de parole pour se faire une idée. Et Raphaël Matzliya, un ancien diplomate désormais à la retraite, a été convaincu par sa prestation.
C'est quelqu'un qui était à la tête d'une armée, qui a fait des guerres. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de l'expérience. D'ailleurs, vous avez vu, quand il prend la parole, il sait comment gérer son discours. C'est quelqu'un qui a fait ça pendant toute sa carrière. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas son pays parce qu'il s'est battu pour ce pays pendant toute sa vie. Il a beaucoup de qualités que pour être un leader en Israël, c'est très important.
Le passé militaire de Benny Gantz fut d'emblée son principal atout de campagne, l'imposant comme rival sérieux de Benjamin Netanyahou. Benny Gantz a renforcé le trait en s'alliant ensuite avec deux autres ex-chefs d'état-major, Moshe Yaalon et Gabi Ashkenazi, une alliance de généraux pour tenter de faire chuter Benjamin Netanyahou, accusé par Benny Gantz d'être plus jet-set que tranché.
Quand j'étais couché dans des terriers boueux avec mes soldats lors de nuits d'hiver glacial, vous, Benjamin Netanyahou, avez quitté Israël pour améliorer votre anglais et le pratiquer dans de luxueux cocktails. Quand je commandais l'unité de combat à Chaldag, lors de périlleuses opérations sur le sol ennemi, vous, Benjamin Netanyahou, avez courageusement et avec détermination frayé votre chemin entre les séances de maquillage des studios de télévision. Et pendant toutes ces nuits de tension et de stress, alors que je m'endormais pour une courte sieste seulement, portant mon uniforme et mes bottes, vous, Benjamin Netanyahou, avez rencontré certains des plus grands tailleurs du monde dans des salons d'essayage et êtes rentré, en toute sécurité, dans votre hôtel de luxe.
Les affaires de corruption ont également pesé sur la campagne de Benjamin Netanyahou. Le 28 février, le procureur général a annoncé son intention de convoquer le Premier ministre sortant à une audition en vue d'une mise en examen dans trois enquêtes distinctes. Mais c'est quand des soupçons de corruption mettant en cause la sécurité de l'État ont émergé qu'un vrai vent de panique a soufflé au sein de l'équipe de campagne de Benjamin Netanyahou. En mars, la presse a révélé que le chef du gouvernement avait autorisé la vente de sous-marins à l'Égypte sans avoir consulté l'appareil sécuritaire. De manière très inhabituelle, Benjamin Netanyahou s'est invité sur le plateau de la chaîne de télévision la plus regardée du pays. Les journalistes n'étaient pas au courant de sa venue. Une apparition impromptue pour se défendre et contre-attaquer.
Il y a des secrets en Israël que seul le Premier ministre et une poignée d'autres personnes peuvent connaître. Il y a parfois des choses que des responsables sécuritaires ne sont pas habilités à savoir. Mais ce qui se passe ici, c'est terrible. Gantz et Lapid, et particulièrement Moshe Yaalon, et aussi Gabi Ashkenazi me forcent, ou veulent me forcer à révéler un secret d'État, et mettre en danger la sécurité de l'État. De fait, ce sont eux qui mettent en danger le pays. Ils font quelque chose d'impensable. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais je pense tout le temps que la transaction sur les sous-marins est d'une importance stratégique pour l'avenir de notre pays. Et je pense aussi à d'autres choses que je ne peux pas révéler. Ceux qui doivent être dans le secret savent de quoi il s'agit.
Pour Eyal Arad, son ancien conseiller politique, Benjamin Netanyahou aurait pu perdre beaucoup avec ses révélations.
Son argument qu'il y avait un grand secret lié à la sécurité qu'il ne pouvait partager qu'avec ceux qui étaient responsables de la sécurité d'Israël n'a pas été accepté par le public. Pendant un moment, il a été vu comme quelqu'un qui privilégiait ses intérêts personnels face à la sécurité nationale. Et en Israël, c'est inacceptable. Les Israéliens pourraient accepter un dirigeant qui place son intérêt personnel au-dessus des questions économiques et sociales, par exemple, mais jamais sur la sécurité, car il s'agit de vie ou de mort pour le pays. Because it's the life and death of the country.
Eyal Arad estime que Benjamin Netanyahou a eu de la chance que le sujet ne soit pas plus exploité par l'opposition. Et en se rendant à Washington puis à Moscou dans les derniers jours de campagne, en obtenant la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté sur le Golan ainsi que le retour de la dépouille d'un soldat tué au Liban en 1982, le Premier ministre sortant a su faire passer le message que s'il a moins d'expérience en uniforme que ses rivaux, il n'a pas d'équivalent pour défendre les intérêts stratégiques d'Israël sur la scène internationale. Israël, les menaces sécuritaires dictent toujours le choix électoral. Un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Pierre Chaffanjon.